Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Eh bien, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le mardi 5 avril. Et en avril, ne te découvre pas Nafil. Voilà, ça c'était dit. J'avais envie de le dire. Alors, j'espère que les poissons d'avril sont passés hein, et les imbéciles sont restés. En général, c'est ce qu'on dit aussi. Voilà, ça c'est dit. Écoutez, nous allons commencer. Donc, la semaine dernière, je vous ai donné un avant-première sur les recettes. Donc, j'espère que vous avez déjà tous vos ingrédients de tout près, de façon à pouvoir nous suivre la recette et puis pouvoir passer à table. C'est le but de l'émission. C'est de préparer ensemble ces différentes recettes et puis de passer directement à table sans que vous ayez courir à droite et à gauche. Alors, en ce qui concerne nos recettes, aujourd'hui nous allons voir donc les verrines de champignons et jambon à la crème. Un petit peu de verdure, ça fait du bien aussi. Donc pour cela, vous aurez besoin de 600 g de champignons de Paris lavés et émincés. Une cuillère à soupe de persil haché, frais ou surgelé, c'est comme vous le souhaitez, comme vous avez. Une cuillère à soupe de crème fraîche, une pincée de poivre, deux pincées de sel, quatre tranches de jambon blanc. Si vous l'avez pris un peu fumé, ça peut être sympa aussi. Une cuillère à soupe de ciboulette ciselée. Là, c'est pareil, vous pouvez en ce moment, elle sort dans les jardins, donc vous pouvez la prendre fraîche ou surgelée si vous n'avez pas dans votre jardin. Et puis, une cuillère à soupe de fromage frais style Saint-Mauré et quelques baies roses pour la déco. Au côté ustensile, vous aurez besoin de 4 verres, un couteau et un saladier. Au niveau de notre filet de truite saumonée ou saumon ou filet de saumon, au beurre d'échalote, vous aurez besoin de 2 cuillères à soupe de farine, 125 g de beurre froid coupé en dés, 3 cuillères à soupe de vinaigre blanc ou rouge, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous n'avez pas de vinaigre blanc, vous pouvez prendre du vinaigre rouge. 3 cuillères à soupe de vin blanc sec, de l'huile d'olive, une pincée de poivre, 2 pincées de sel, 4 filets de truite saumonée ou de saumon. Donc j'espère que vous avez demandé à votre poissonnier de vous enlever la peau et puis de vous mettre la truite saumonée en filet, c'est plus sympathique à cuire. Et une échalote finement hachée, 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et 600 g de brocoli, ça c'est pour les légumes. Vous aurez besoin d'une casserole au niveau des ustensiles, une casserole, un fouet, un plat allant au four, un couteau, une poêle, du papier aluminium, un cuit-vapeur, un bol ou une saucière et un plat style saladier. Vous savez, un légumier, ce qu'on appelle un légumier. Et puis, pour le dessert, nous allons préparer les œufs au lait. Donc là, c'est une recette tout à fait simple. Vous allez prendre, donc, vous aurez besoin d'un litre de lait, une gousse d'ail, une gousse de vanille, parce que l'ail dans le lait, les œufs au lait, ça ne va pas le faire. Donc, une gousse de vanille, excusez-moi. 6 œufs et 125 g de sucre. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une casserole, d'un fouet, d'un plat allant au four, d'un couteau, d'une cuillère en bois, d'un saladier et de 4 à 8 ramequins allant au four. Alors, pourquoi 4 à 8 ramequins, parce que un litre de lait, si vous avez des grands ramequins, c'est parfait. Si vous avez des plus petits, vous en mettrez le double, ce qui vous permettra de les manger le lendemain aussi, ça peut être sympa. Voilà, écoutez, on a fait la liste de vos ingrédients et de vos ustensiles. Eh bien, nous allons commencer par les œufs au lait. Donc, pour cela, il faut que vous prévoyiez de faire préchauffer votre four à 150 degrés. Donc le thermostat, c'est à peu près 5. Tout dépend de votre four, mais c'est 150 degrés, thermostat 5. Dans une casserole, vous allez verser 1 litre de lait et la gousse d'ail, vous allez la fendre en deux. Comment ?
De vanille, hein, t'as encore dit ail ?
Ah oui, j'ai dit ail. Aïe, vraiment. Et puis moi, j'aime bien l'ail, donc, mais pas dans cette recette-là.
Non.
Pas là, ça ne va pas le faire. Ça sera peut-être à étudier, mais pas celle-là. Pas dans les œufs au lait. Donc, une gousse de vanille, excusez-moi, donc fendue en deux, dans le sens de la longueur. Ça, c'est important. C'est ce qui va permettre à votre vanille, à la chaleur, de s'évaporer de cette gousse et va prendre, le lait va prendre ce goût de vanille. Et vous allez le faire cuire 10 minutes en remuant avec une cuillère en bois pour éviter que le lait accroche au fond de la casserole. Alors c'est important parce que le lait qui accroche au fond de la casserole, je peux vous dire que c'est pas terrible. Ça, c'est d'expérience. Nathalie, tu nous diras au bout de 10 minutes au niveau de la cuisson. Okay. Alors, on va pas toujours tout préparer d'un seul coup, mais au bout de 10 minutes, je vous dis ça, c'est de façon à ce que vous puissiez prévoir. Surtout, vous allez laisser infuser votre vanille au bout de 10 minutes. Voilà, au bout de 10 minutes, on éteindra le feu et on laissera infuser la vanille. En parallèle, en attendant que notre lait chauffe et infuse la vanille, on va prendre un saladier. Et on va mettre 6 œufs dedans. Et puis, les 120 grammes de sucre. Et vous allez fouetter, c'est-à-dire blanchir votre œuf et vos œufs et votre sucre. Hein, donc, comme je dis toujours, force et courage. Parce que là, c'est vraiment le fouet. Alors, pour les petits feignants, vous pouvez prendre un batteur fouet. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime bien quand c'est... c'est au fouet parce que vous voyez la mousse arriver et vous voyez votre appareil qui devient jaune pâle. Donc force et courage pour ceux qui fouettent. Pendant que vous fouettez, je pense que Nathalie, tu vas nous dire quand et comment les œufs sont arrivés dans nos assiettes.
Alors, comme tu le sais, chaque Français consomme en moyenne 216 œufs par an.
Wow, c'est beaucoup
quand
même.
C'est énorme.
C'est énorme.
Soit plus de la moyenne européenne, qui est d'environ 200 œufs. 97% des Français en mangent, ce qui est quand même aussi beaucoup. En 2015, les œufs bio représentaient 13% du marché en volume et les ventes d'œufs issus d'élevage label rouge en grande surface représentaient 11% de part de marché en volume. Les œufs d'élevage en plein air, 20%. Les œufs standards représentaient la majorité du marché avec 59% de part de marché en volume. Alors, à la préhistoire, ce qui ne date pas d'hier, les œufs de diverses espèces d'animaux sont sans nul doute consommés depuis les temps les plus anciens par les premiers hommes. D'autant que les œufs de n'importe quelle espèce pondeuse, y compris la tortue et l'alligator, peuvent servir de nourriture. À l'époque, les chasseurs-cueilleurs, les œufs de canne, d'oie, de pintade, de pigeon, de caille, voire d'autruche. De tous les volatiles dont on pouvait piller les nids, étaient ramassés. Gobés, ils nourrissaient quand la viande faisait défaut. Un moyen de parer au manque de protéines animales. De même, la période des premières domestications d'oiseaux pour la consommation d'œufs est inconnue. Certains écrits historiques indiens racontent quand la poule était déjà domestiquée en 3200 avant Jésus-Christ. Des écrits égyptiens et chinois indiquent pour leur part que les poules pondaient des œufs pour l'homme en 1400 avant Jésus-Christ. Après, à l'Antiquité, les Phéniciens se régalaient des œufs de l'autruche, tandis que dans l'Antiquité des Romains, les Romains consommaient ceux du paon bleu et les Chinois ceux du pigeon. Bien que le célèbre gastronome romain Apicius, que tout le monde connaît, hein, bien évidemment, donne dans son ouvrage culinaire diverses recettes de flans et d'omelettes, l'œuf restera longtemps un aliment marginal, d'abord à cause d'interdits religieux et de croyances superstitieuses, ensuite pour des raisons économiques. En effet, pour le peuple, il semblait nettement plus rentable d'attendre que les œufs se transforment en poules ou en coques. Donc faisaient exception à cette règle les Chinois, qui le considéraient comme une excellente source nutritionnelle et en ont répandu l'usage dans tout l'est de l'Asie. Au Moyen-Âge, aucun écrit conservé depuis le Moyen-Âge en Europe ne mentionne l'œuf. Peut-être parce que, tout comme la viande, il était interdit par l'Église catholique d'en consommer les jours maigres, c'est-à-dire pendant plus de 160 jours par an. Et comme les ne suivaient pas le calendrier liturgique, mais celui des saisons et de leur cycle biologique, elles pondaient abondamment durant le carême, période où la lumière du jour est de nouveau abondante. On les conservait alors dans de la graisse liquide ou de la cire jusqu'à Pâques, jour faste par excellence. Ainsi, c'est pour améliorer leur apparence qu'on les décorait abondamment. On a aussi l'histoire des œufs de Pâques, du coup. Les traditions des œufs de Pâques est un emprunt de la chrétienté à des rites païens. Par exemple, les Égyptiens considéraient l'œuf comme symbole de la fertilité, la renaissance, la vie nouvelle. C'est ainsi que l'œuf en est venu à symboliser la résurrection du Christ. Les œufs de Pâques étaient à l'origine des œufs de poule ou de canard, décorés de couleurs vives avec des colorants végétaux. Les 17 et 18e siècles ont vu la fabrication de jouets en forme d'œufs qui ont été donnés aux enfants à Pâques. Les œufs en chocolat sont apparus en Europe au début du 19e siècle. En France et en Allemagne, ils étaient faits de chocolat solide, la technique du chocolat moulé n'ayant pas été mise au point. Au milieu du 15e siècle, en Europe, l'œuf de la poule a graduellement pris le pas sur tous les autres. On pense que les poules utilisées aujourd'hui dans la production des œufs sont des descendantes des poules arrivées en Amérique à bord des navires de Christophe Colomb. Des lignées originaires d'Asie, c'est probablement la fiabilité du chant du coq chaque matin et la régularité avec laquelle la poule pond des œufs qui ont poussé les Chinois à choisir des oiseaux horloges vivantes. C'est marrant.
C'est des histoires, mais
c'est dingue.
Moi, je trouve ça super parce que en plus, on est dans le mois de Pâques. Hein, on va y arriver. Hein, lundi de Pâques, je pense que c'est de mémoire, c'est le 18 avril.
Ouais.
Donc voilà, c'était bien placé là. Vas-y, on y va pour le 16e siècle, le 17e siècle.
Alors ouais, au milieu du 17e siècle, on connaît au moins 60 recettes pour apprêter cet aliment qui figure de plus en plus souvent au menu. Donc, au XVIIIe siècle, on prête à Louis XV, qui raffolait d'œufs à la coque et de meringue, d'avoir développé l'aviculture à Versailles. Les poulettes étaient installées jusque dans les greniers et fournissaient quotidiennement les coquetiers royaux. Sous le règne de ce roi, les Français consommaient 60 œufs par an. On rappelle qu'on est à 215, je crois, aujourd'hui.
216, oui.
216. Et par personne, et Menon disait de l'œuf, c'est un aliment excellent et nourrissant que le saint et le malade, le pauvre et le riche partageaient ensemble. Au XVIIIe siècle, la découverte par les Français d'une technique de couvaison artificielle que pratiquent les Égyptiens en ayant recours à des fours à basse température suscitera le plus vif intérêt chez les éleveurs qui multiplient les croisements. Au XIXe siècle, non pas du tout, c'est pas du coup du tout le XIXe.
Si.
Le XIXe. Des races de poules nettement plus productives sélectionnées par les Chinois feront leur apparition en Occident, créant un véritable émoi chez les éleveurs qui voudront tous posséder quelques-uns de ces nouveaux oiseaux très différents de ceux des races méditerranéennes et européennes connues. Au cours de ce siècle, une centaine d'autres races sont créées, dont certaines que l'on élève que pour la chair, d'autres pour les œufs, d'autres enfin pour les deux usages. Au XXIe siècle, arrive avec son cortège de bonnes et mauvaises idées. D'une part, les poules vont et viennent comme elles le souhaitent, pratiquant le jogging avec assiduité et ne picorant que des bonnes choses, du blé, du maïs. Elles mènent une vie satisfaisante, elles sont heureuses, les poulettes. Et par conséquent, pondent des œufs de qualité. D'autre part, toujours à la recherche de rentabilité et de production maximale, certaines poules